France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette Ovine.
Bonjour à toutes et tous, entendez-vous l'écho? C'est, vous le savez, désormais une émission en deux parties. Une question d'actualité pour commencer. Nous nous demanderons pourquoi taxer les biens professionnels semble à ce point compliqué entre posture politique et notion d'efficacité économique. Puis dans une seconde partie, nous entamerons une nouvelle série en deux volets où nous tenterons de remonter le cours d'une brève histoire de la politique de l'offre en commençant par celle du soutien aux entreprises de la tech. Et une parenthèse pour commencer, une parenthèse sous la forme d'un point sur l'actualité. Nous avions un gouvernement, nous n'en avons plus. La dépêche est tombée à 9h41 ce matin. Et à 9h48, c'est une autre dépêche de l'AFP qui nous a appris que le CAC 40 avait perdu 1,43%, puis 1,73% à 9h52, puis plus de 2% à 9h59. De leur côté, dès 9h50, la Société Générale, le Crédit Agricole et BNP Paribas avaient perdu entre 5,4 et 4%. Un enchaînement de réactions qui fascine et interroge toujours autant sur le rôle d'étalon de mesure des marchés face à l'incertitude politique. Tout se mesure, mais tout s'achète-t-il? C'est la question qui s'est également posée la semaine dernière lorsque l'enseigne de prêt-à-porter chinois Shein, symbole de la fast, voire ultra-fast fashion, c'est-à-dire mode ultra-éphémère, a annoncé mercredi dernier vouloir ouvrir 6 magasins en France, une première mondiale. 5 boutiques devraient voir le jour dans les galeries Lafayette à Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges. Justification avancée, revitaliser les centres-villes. Ce qui est particulièrement ironique quand on sait ce que la fast fashion et sa stratégie d'inondation du marché textile grâce à des coûts de fabrication très bas et des coûts humains et environnementaux très élevés, mais aussi des pratiques avérées de fraude, ont fait justement au petit commerce. La toute première boutique ouvrira au BHV, dans le Marais à Paris. Pas sûr de bien saisir là l'enjeu d'une quelconque revitalisation. Cet accord passé avec la CGM, la Société des Grands Magasins qui exploite le BHV et les Galeries Lafayette, a été critiqué de toutes parts, y compris par les Galeries Lafayette elles-mêmes, par diverses fédérations de l'habillement, par certaines marques aussi qui ont annoncé leur départ des galeries, ou encore par le député LR Antoine Vermorel-Marquès, à l'origine d'une proposition de loi pour combattre la fast fashion et qui s'exprimait jeudi dernier sur France Inter.
Je pense qu'ils essayent de s'acheter une bonne réputation et avec des moyens, avec de l'argent, vous pouvez vous acheter des beaux lieux symboliques comme le BHV et les Galeries Lafayette. Mais le problème de Chine reste le même, c'est quel est leur mode de production et quel est leur mode de commercialisation.
Mais peut-on s'acheter une réputation via les murs qui littéralement la soutiennent? C'est toute la question qui se pose aujourd'hui puisque la Caisse des dépôts a déclaré jeudi elle-même ne pas cautionner une telle alliance. Or, pour rappel, depuis le mois de juin, la Banque des Territoires, entité de la Caisse des dépôts, est en négociation avec la CGM, dirigée par Frédéric et Marilyn Merlin, pour acquérir le bâtiment du bazar de l'Hôtel de Ville. Alors est-ce qu'une agence publique, même minoritaire, peut financer et donc donner un toit et donc une forme de légitimité à une entreprise qui fait l'objet de nombreuses enquête en France et en Europe, qui a écopé d'une amende de 40 millions d'euros en juillet dernier et a été épinglée lundi dernier encore par l'OCDE qui, après 2 ans d'enquête, a constaté des manques structurels en matière de protection des droits humains et des droits des travailleurs, notamment en ce qui concerne le travail des enfants, les audits des fournisseurs se faisant à distance. La question est posée. J'aimerais rester optimiste sur le sujet, mais la lutte risque d'être longue et là encore l'actualité de la semaine dernière le prouve. Le 1er octobre, mercredi dernier, donc, la Commission européenne a rendu son avis sur la proposition de loi française sur l'impact environnemental de l'industrie textile, avis révélé par le média Contexte. Si l'intention globale est validée, les moyens proposés, notamment en ce qui concerne l'interdiction de la publicité et les modalités de calcul des pénalités environnementales pour cette entreprise qu'est Chine, dont le bilan carbone a, je le rappelle, doublé en l'espace d'un an entre 2022 et 2023, font partie des grosses difficultés techniques soulevées par la Commission européenne, car il ne faudrait pas l'oublier, le siège de Chine pour la région Europe se situe en Irlande et donc au sein de l'Union européenne, ce qui pose de grosses difficultés en termes de politique de concurrence. C'est un désaveu juridique pour la France. Les contraintes techniques soulevées par la Commission rendent difficilement imaginable une suite pour le texte. C'est ce qu'a commenté un lobbyiste cité par Contexte. Alors des centres-villes français aux institutions européennes, c'est peu dire que la bataille commerciale et juridique risque donc d'être longue et on continuera bien sûr à en suivre les évolutions. Et je referme là cette parenthèse. La démission de Sébastien Lecornu, j'en parlais, remet tout à plat, mais c'est aussi le signal de la difficulté à trouver un compromis politique certes, mais aussi économique. C'est tout l'enjeu de la taxe Zucman qui faisait partie des discussions entre le gouvernement et les dirigeants de certains partis. Sébastien Lecornu avait balayé la possibilité d'instaurer une telle taxe et celle d'un retour à l'ISF, d'un impôt sur la solidarité sur les fortunes, et avait proposé vendredi de mettre en place une taxe sur le patrimoine financier afin d'exonérer les biens professionnels, pensant peut-être là ouvrir la voie à une avancée dans les discussions budgétaires. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve en la matière. Les biens professionnels, ce sont donc eux qui sont dans le viseur de la taxe Zucman. C'est en leur nom que beaucoup, justement, s'opposent à cette fameuse taxe. Ce sont eux qu'il s'agit de ne pas toucher lorsque certains appellent à un retour de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Car ce sont eux dont il n'était absolument pas question lorsque se concrétisent les discussions autour de la taxation sur les grandes fortunes dès la fin des années 70, alors de la création de l'impôt sur les grandes fortunes, l'IGF en 1981, en passant par celle de l'ISF, puis de sa suppression et de son remplacement par l'IFI en 2018, jusqu'au débat actuel. Nous allons nous demander ce que nous disent les discours autour d'une taxation des plus grandes fortunes, de ce qu'on attend véritablement d'un tel impôt. Et nous allons pour cela, et je reprends là l'expression d'un de nos invités, prendre au sérieux tous les modes de justification qui participent à ce débat, à la fois technique, économique, mais aussi politique. Et c'est la raison pour laquelle nous recevons aujourd'hui un économiste et un docteur en sciences politiques, François Gérolf et Martin Baloge. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
François Gérolf, vous travaillez à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes également chercheur et professeur associé à Sciences Po Paris. Martin Baloge, vous êtes quant à vous enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Vie et mort de l'impôt sur la fortune, les luttes pour la représentation des intérêts à l'Assemblée nationale et au Bundestag » paru aux éditions de la Maison des sciences de l'homme en 2022. Et vous êtes, si mes informations sont exactes, installé dans les studios d'ici à Lille. Je remercie très vivement les techniciens qui assurent la liaison avec nos studios ici. Ici à Paris. Et puis un grand merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Alors avant de poser la question du comment, il faut se poser la question du pourquoi. Je l'ai dit, la question des biens professionnels taxés ou non pose avant tout la question de la raison pour laquelle on cherche à faire contribuer les grandes fortunes. Mercredi dernier, le lauréat du prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, était invité avec les économistes Jayati Koch et Gabriel Zucman, ainsi que le rapporteur général du budget et député Lyotte Charles de Courson, à participer à une table ronde organisée par le président de la commission des finances et député LFI, Éric Coquerel. Je vous propose de l'écouter.
On a dit pendant longtemps qu'il n'y a pas assez d'argent dans les hautes sphères et que ce n'était pas la peine d'imposer ces hautes sphères. C'était l'idée il y a 50 ans. Mais avec cet écart d'inégalité maintenant, l'argent se trouve bel et bien dans les hautes sphères. Donc, c'est toute l'idée derrière une taxe sur la richesse, sur la fortune. L'idée, c'est d'aller chercher l'argent là où il est, de réduire les inégalités afin de pouvoir financer notre économie. C'est nécessaire pour notre démocratie parce que lorsqu'il y a une telle inégalité de fortune, ceux qui sont en haut de la société ont beaucoup trop d'influence sur la société. Ils contrôlent le débat public. J'aimerais rajouter une dernière chose. Nous n'avons pas encore parlé de la question de justice ou d'équité. Les personnes qui ont le plus d'argent payent moins d'impôts que ceux qui ont moins d'argent.
François Gérolf, Joseph Stiglitz rappelle là en un peu plus d'une minute les différentes fonctions d'un impôt sur la fortune. Il y a à la fois un impératif de financement des États, mais aussi un impératif démocratique, puisque l'argent, il le disait, c'est de l'influence, et puisque ces fortunes sont aussi l'expression de trop grandes inégalités. Du point de vue de l'économiste que vous êtes, cet impératif démocratique doit-il être pris en compte parmi les multiples fonctions de l'impôt ?
Oui, je pense que effectivement l'impôt, ça sert aussi à faire une société, à faire en sorte que chacun ait l'impression de contribuer à hauteur de ce qu'il peut et que ceux qui sont en mesure de contribuer davantage, ils soient amenés effectivement à contribuer beaucoup plus. Et effectivement, dans le cadre de la taxation des milliardaires, il y a un sentiment que les milliardaires sont les seuls à ne pas s'acquitter de l'impôt dont ils devraient s'acquitter, y compris dans un pays comme la France, où les impôts sont quand même à un niveau relativement élevé. Et donc, dans ce contexte, et dans un contexte en plus de difficultés croissantes, à la fois économiques et budgétaires, qu'on voit actuellement, c'est vrai que la tentation de taxer les milliardaires et d'aller chercher l'argent là où il est, en quelque sorte, pour le dire très simplement, elle est très forte.
Vous avez parlé d'un sentiment, François Gérolf, on va voir ce qu'il en est de la réalité. Martin Baloche, si on retrace la genèse de l'idée d'un impôt sur la fortune, on en trouve les toutes premières traces au tout début des années 70, en 1972. Puis en 1978, le Parti Socialiste fait de l'impôt sur la fortune un véritable objectif. Vous citez alors les travaux de Thomas Piketty qui soulignent que cette genèse est marquée par deux conceptions opposées de cet impôt, entre une ligne dur, pour qui l'impôt sur la fortune doit permettre de réduire les écarts de richesse, même si c'est confiscatoire, et une vision plus modérée de l'ISF, une vision plus progressive, qui sert principalement à affirmer l'effort de solidarité des groupes privilégiés à l'égard des plus dominés. Finalement, quelle option a été choisie en France, si on fait un bilan, si on a ce regard historique, et pour quelles raisons ?
Alors effectivement, si on veut comprendre l'instauration de l'ISF en 1980, il faut revenir quelques années en arrière pour ne pas fétichiser la décision d'instaurer cet impôt qui est révolutionnaire même en France à l'époque. Une dizaine d'années auparavant, vous avez le programme commun dans lequel l'impôt sur la fortune est clairement affirmé. Il est assez flou et au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'élection de 1981, le PS et le PCF vont mettre cet impôt donc à leur programme. Ils vont le mettre à un taux marginal qui est colossal, c'est 8%. 8%, c'est du jamais vu, ça sera jamais appliqué, parce qu'en fait, quelques années après, quand il sera instauré, l'exercice du pouvoir va forcément atténuer cette ambition fiscale, et il faut distinguer le temps de la campagne et le temps de l'exercice du pouvoir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on a donc adopté cette vision modérée ? C'est parce qu'en fait, avant même qu'il y ait un impôt sur la fortune en France, vous avez des groupes d'intérêt qui se sont mobilisés contre le projet d'impôt sur la fortune. En 79, Raymond Barre, il crée une commission qui est chargée d'élaborer un rapport sur le prélèvement sur les grandes fortunes. Et alors d'une part, il fait quelque chose d'intéressant. Il demande aux membres de ce comité de trouver et d'éviter de recourir à des procédures, je le cite, qui heurteraient la psychologie des contribuables. Ce qui veut dire déjà à l'époque qu'on se soucie du bien-être en fait des chefs d'entreprise qui seraient concernés par ou des riches qui seraient concernés par cet impôt. Et vraiment, ce qu'on observe, c'est qu'en fait tout un ensemble de groupes mobilisés, je pense même à la FNSEA par exemple, auquel on pense pas aujourd'hui quand on pense à l'ISF, la FNSEA, mais aussi les associations nationales de sociétés par action, c'est-à-dire les banques, qui aujourd'hui interviennent moins dans le débat, vont en fait se mobiliser sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur l'exclusion des biens professionnels et les dangers en fait que ferait peser un tel impôt sur les sociétés. Donc il y a déjà, avant même qu'il existe cet impôt, le fait que des groupes d'intérêt brandissent la menace pour l'économie française d'un tel impôt qui toucherait des particuliers mais qui en fait aurait des conséquences sur les sociétés. Alors, et c'est entre ça qui va lancer cet impôt atténué en quelque sorte.
Alors vous nous avez parlé, Martin Baloche, de la psychologie des contribuables. François Gérolf, je le disais, vous parlez d'un sentiment diffus. Il faut voir quelle réalité aussi il y a dans ce rôle de l'impôt de réduire les inégalités. Je vais citer les économistes Camille Landais, Emmanuel Saez, qui sont proches de Gabriel Zucman, qui dans une tribune publiée récemment dans le journal Le Monde, estime qu'aujourd'hui, il est clairement établi que les milliardaires ne contribuent pas aux charges publiques à hauteur de ce qui est demandé aux autres catégories sociales, alors que l'ensemble des Français s'acquittent en moyenne de 50% de leurs revenus en prélèvement obligatoire. Ce taux tombe à près de 25% pour les plus grandes fortunes, soit deux fois moins. François Gérolf, c'est donc que les taxes sur la fortune mises en place jusqu'ici n'ont pas joué le rôle qu'elles étaient censées avoir, à savoir ce rôle redistributif.
Alors oui, effectivement, donc le chiffre qu'il cite vient d'une note de l'Institut des politiques publiques sur les milliardaires dont on a beaucoup parlé. Alors ce qu'il faut voir, c'est la raison pour laquelle effectivement le taux a l'air apparemment d'être beaucoup moins grand pour les milliardaires, alors même que l'impôt sur le revenu normalement est censé être progressif. La raison, c'est qu'on inclut dans ces revenus ce qu'on appelle le revenu économique des milliardaires, c'est-à-dire non pas seulement les revenus qu'ils touchent à titre individuel et personnel, mais également les revenus des entreprises qu'ils contrôlent. Et en fait, tout s'explique évidemment par le fait que ces revenus ne sont taxés qu'à l'impôt sur les sociétés, en gros, et que du moment qu'ils ne sont pas versés directement à la personne, ces impôts ne subissent pas effectivement un niveau de taxation qui serait comparable à la flat tax, par exemple, en France, de l'ordre de 30%. Donc, dès que vous touchez des dividendes, effectivement, et puis dès que vous les consommez par ailleurs, vous êtes frappé de la taxe sur la valeur ajoutée et de la flat tax. Donc, en fait, la raison, enfin, ce qui explique ce taux, effectivement, apparemment en bas, c'est que ces revenus sont accumulés dans des entreprises. Alors, elles sont accumulées aussi dans des holdings. Et je pense qu'une des grandes questions, c'est de savoir est-ce que ces holdings, justement, ne jouent pas un rôle trop important et démesuré aujourd'hui. Mais en général, elles sont accumulées dans les entreprises, donc dans des entreprises comme LVMH, qui d'ailleurs souvent les réinvestissent. Et comme cet argent est accumulé dans les entreprises, il n'est jamais versé, il n'est jamais consommé et il n'apparaît jamais comme un revenu des individus en tant que tel. Donc c'est pas de la fraude fiscale, c'est pas que les individus ne s'acquittent pas, ce n'est même pas que l'impôt n'est pas progressif. C'est que à partir du moment où les milliardaires ont des revenus qui sont d'une telle importance que, en fait, ils n'en ont ni besoin pour leur train de vie, ni vraiment besoin de se les verser à partir de leurs entreprises, effectivement, ces revenus ne sont jamais taxés. Et je pense que la question, le débat, c'est un peu de savoir, est-ce que le bon concept, c'est le revenu économique? C'est-à-dire, est-ce qu'on a raison de mettre en transparence les entreprises et leurs détenteurs? Est-ce qu'on a raison de considérer qu'un revenu de LVMH, c'est un revenu de Bernard Arnault, que c'est la même chose, ou pas? Et le débat, je pense, sur la note de l'Institut des politiques publiques, il porte en grande partie sur cette question-là. Et la question de la division entre vraiment le statut juridique de l'entreprise, y compris fiscalement, et le statut juridique de l'individu, c'est quelque chose de très ancien, qui est presque à la source du capitalisme, si vous voulez, et qui fait, par exemple, que quand une entreprise a une dette, la personne qui détient cette entreprise n'est pas redevable de cette dette. Donc, il y a aussi des avantages à avoir ce système.
C'est une notion très ancienne, c'est une notion très floue aussi. Et effectivement, elle fait déjà partie des débats. On le disait, dès lors qu'on parle d'IGF puis d'ISF, c'est une notion qui est en toutes les bouches patronales aussi en 1989, lorsqu'est mis en place l'impôt de solidarité sur la fortune et qui fait l'objet de discussions régulières et tout aussi régulièrement revient l'argument de l'outil de travail.
Il ne fallait pas être grand jospinologue pour deviner dimanche dernier, après l'interview du Premier ministre sur Europe 1, les intentions du gouvernement en matière d'impôt sur la fortune. Matignon ne souhaite pas que l'impôt soit étendu à l'outil de travail, c'est-à-dire aux biens professionnels. L'information est confirmée aujourd'hui par un certain nombre de fuites, et notamment par les déclarations du patron des patrons, Ernest-Antoine Sellière, qui a rencontré ce matin le ministre de l'économie, Dominique Strauss-Kahn, et qui est ressorti avec un certain nombre d'assurances de son bureau. On écoute M. Sellière au micro de Dominique. André.
Je crois, si vous voulez, que les nouvelles qui filtrent actuellement sur le fait que le gouvernement ne retiendrait pas la taxation de l'outil de travail comme une décision dans le cadre de la prochaine loi de finances prouvent que nos arguments très sérieusement énoncés contre cette mesure font leur chemin. Je crois que simplement pouvoir redire avec beaucoup de sérieux que la taxation de l'outil de travail aurait un effet très négatif sur l'esprit d'entreprise et sur le développement des entreprises de notre pays et que pour cette raison, nous continuons à souhaiter vivement que cette décision ne soit pas prise.
L'outil de travail ne sera pas soumis à l'impôt sur la fortune, contrairement à ce que souhaitaient le Parti communiste et certains députés socialistes. Le gouvernement a d'autres projets pour faire entrer l'argent dans les caisses de l'État.
On part maintenant à l'université d'été du MEDEF dans les Yvelines. Ce matin, Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, se félicitait des déclarations de Pierre Moscovici. Il faut dire que le ministre de l'économie a annoncé qu'il n'était pas question d'inclure les biens professionnels dans l'assiette de l'ISF. Les patrons sont soulagés. Marion Lourd.
Dans les allées de l'université du MEDEF, des patrons contents, à l'image de leur présidente, Laurence Parisot. Daniel Thébault dirige une entreprise d'événementiel en Midi-Pyrénées et préside le MEDEF local. Il paie déjà l'impôt sur la fortune dans les basses tranches et craignait de voir s'alourdir la balance.
Ça l'aurait, multiplié la facture peut-être par 4 ou 5. Donc c'est pour ça que, imaginez des gens qui ont hérité leur entreprise, là c'est même impossible quasiment. Là les entreprises auraient vraiment déménagé, au moins les sièges sociaux, hors de France. Donc on est quand même rassuré qu'il l'ait dit publiquement. Mais honnêtement, personnellement, j'ai jamais cru.
Martin Malage, on arrive là à un point extrêmement intéressant. Ce sont des discours patronaux qu'on entend à l'instant. On vient d'évoquer avec François Girolf le flou finalement entre fortune personnelle, fortune professionnelle. Je tiens à rappeler que Gabriel Zucman, dans un post récent, estimait que la notion de bien professionnel n'existe dans aucun manuel d'économie. C'est une invention française de 1981, au moment de la création de l'impôt sur les grandes fortunes. Est-ce qu'il faut comprendre, Martin Malage, que puisqu'on a établi que l'une des fonctions de l'impôt était de maintenir une forme de pacte républicain, pour l'IGF c'était par exemple financer le RMI, puis ensuite l'ISF, l'ISF, c'est au nom aussi d'une certaine justice fiscale, il est très coûteux politiquement d'y renoncer. Donc plutôt que de la supprimer corps et biens, on préfère l'aménager à l'intérieur. Et finalement, cette exclusion des biens professionnels est le résultat de cela, d'une sorte de compromis trouvé entre justice fiscale et puis coût politique de cet impôt.
Oui, en fait, dès 1981, on comprend que la question des biens professionnels, ça va être un enjeu central. Et d'ailleurs, très rapidement, il y a des amendements qui sont votés, qui sont apportés à la loi pour modifier justement le texte initial. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que en reprenant un peu les archives, je suis tombé sur la déclaration de Gilbert Gentier, qui est un député UDF, donc de centre droit, qui en 81 propose un amendement dont un des objectifs, je le cite, c'est d'éviter que des sociétés ne constituent un abri pour l'impôt sur la fortune du dirigeant. Donc c'est du Zucman avant l'heure en 81 par des députés de droite. Donc on sent bien que il y a ici un enjeu qui est important. Bon, en fait, l'ISF, l'IGF puis l'ISF, c'est un impôt qui va constamment être mité par un ensemble de niche fiscale ou d'exonération fiscale. C'est d'abord les biens professionnels dans un premier temps, puis ça sera renforcé comme l'ont bien montré les extraits. Mais ça va être aussi très rapidement, bon, on le sait, hein, les œuvres d'art par exemple. Et plus tard, dans les années 2000, ça va être par exemple le dispositif ISF-PME qui remet au cœur de la discussion le lien entre l'ISF et l'outil de production, c'est-à-dire le fait que les redevables ISF peuvent réduire leur impôt en cas d'investissement dans des PME non cotées. Donc, en fait, dit autrement, l'histoire de l'ISF en France, c'est l'histoire en fait d'un impôt où le législateur, qu'il soit de droite ou de gauche, a en fait toujours été assez attentif aux intérêts des chefs d'entreprise, en vérité, c'est comme l'a montré d'ailleurs les extraits. Et en cela, la réforme de 2017-18, bah, elle vient, elle est assez logique, en même temps ça marque une rupture, mais elle est assez logique parce que les intérêts patronaux ont toujours été assez écoutés, y compris par Laurent Fabius, hein, dès 1981, quand il expliquait qu'il ne faut pas pénaliser l'emploi et donc l'outil de travail.
François Gérald, je vous voyais réagir de l'autre côté de votre micro.
Non, mais la réforme de l'ISF, effectivement, en 2018, elle exclut complètement, y compris les biens financiers. Donc là, je pense que, effectivement, là, c'était plus clairement peut-être une mesure de classe, on va dire, même si ça avait été justifié à l'époque pour la productivité de l'économie. Emmanuel Macron avait dit explicitement, d'ailleurs, le but, c'est vraiment de remobiliser le capital productif en France, et si ça ne fonctionne pas, je m'engage à revenir sur cette réforme de l'ISF.
Ce qui est là une nouvelle fonction de l'impôt, une fonction incitative, presque mécanique, finalement.
Exactement. Enfin, l'idée, c'était vraiment une forme de théorie du ruissellement, si vous voulez. C'est si les riches sont plus riches, il y aura plus d'épargne, plus d'investissement en France et donc des salaires plus élevés, plus d'emplois, ça va recréer de l'emploi. Je pense que les évaluations de France Stratégie, qui est un organisme qui est placé auprès du Premier ministre, ont montré que, voilà, que cet effet avait été, s'il existe, très très faible. Et je pense que ça explique d'ailleurs en partie, hein, pourquoi est-ce qu'on discute actuellement d'un retour d'une forme d'ISF ou de quelque chose qui serait beaucoup plus important, qui est la taxe Zucman. Donc sur ça, je suis d'accord que la réforme de l'ISF, finalement, n'a pas eu les effets d'efficacité qui avaient été promis, qu'il n'y a pas eu... Mais dans le même temps, l'ISF n'imposait pas le patrimoine professionnel. Donc la question, c'est de savoir si on revenait en arrière et qu'on allait plus loin, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on imposer le patrimoine professionnel, là, je pense qu'on tomberait sur quelque chose de beaucoup plus difficile et qu'il y a quand même des bonnes raisons pour exclure les biens professionnels qui vont au-delà des seuls intérêts des chefs d'entreprise, j'aurais envie de dire, qui vont, à mon avis, enfin les hommes politiques qui prennent forcément le parti des chefs d'entreprise à ce moment-là, mais aussi ils sont inquiets du fait que vraiment les milliardaires s'en aillent. Aujourd'hui, alors on n'est plus dans les années 80. Dans les années 80, je pense que cet argument est un petit peu de mauvaise foi. Je suis assez d'accord. Je pense qu'on a toujours utilisé, hein, ces arguments de l'optimisme des chefs d'entreprise historiquement, et c'est pas vraiment convaincant. On n'a jamais vu ça. Par contre, aujourd'hui, ce qui est réel, c'est la possibilité d'un exil fiscal. Et c'est très facile aujourd'hui, surtout pour un dirigeant qui dirige des entreprises sur plusieurs pays, voire sur plusieurs entre plusieurs océans, si vous voulez, de se domicilier fiscalement dans des pays avec une fiscalité plus avantageuse. Et donc, je pense que pour le coup, ce risque-là, qui, je suis d'accord, dans les années 80, n'était pas complètement convaincant, aujourd'hui aller s'installer en Belgique, comme l'ont fait d'ailleurs un certain nombre de milliardaires français déjà, ou en Suisse.
Pourrait avoir un coût.
C'est pas très difficile. Il suffit de franchir la frontière et la Cour de justice de l'Union européenne met un certain nombre de restrictions, justement aux restrictions qu'on peut mettre à la mobilité des personnes, à la mobilité des capitaux, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui cet argument est peut-être plus convaincant qu'il l'était dans les années 80.
François Gérolf, je voudrais tout de même reprendre ce que vous disiez à un moment de cette discussion. Il y a quand même une nette distinction à faire entre capital productif et capital improductif. Vous l'avez dit, il y a une petite musique qui est montée sur une forme de retour à l'ISF aujourd'hui. C'est notamment ce que défendait Marc Fesneau à l'époque, le 23 septembre, dans les pages du journal Les Échos. Est-ce qu'elle est là, la vraie question, François Gérolf?
Oui, enfin moi je serais assez favorable à un retour de l'ISF dans sa version antérieure parce que je pense pas que la suppression de l'ISF ait eu un effet aussi positif que ce qui avait été prévu et puis parce que par ailleurs je trouve normal dans un contexte où on va demander des efforts à tout le monde parce qu'on essaye de rétablir les finances publiques qu'on demande aussi un effort aux plus fortunés. Mais je pense que le discours sur la taxe Zuckerman, c'est un discours sur un impôt qui est beaucoup plus important, qui est 3 à 4 fois plus important, si on parle d'un chiffrage de 20 milliards d'euros. Et donc là, on passe dans autre chose. Si on parle, par exemple, du contrôle des entreprises, du fait que certains entrepreneurs et milliardaires ne seraient pas en mesure de payer taxes en cash, par exemple, qui serait obligé de vendre des actions ou de donner des actions en fait à l'État français, donc de payer en nature, et que l'État deviendrait détenteur ou propriétaire et contrôleur du coup de ces actions, ou qui devrait les revendre aux salariés. Là, je pense qu'on tombe dans autre chose, on tombe dans quelque chose qui se rapproche plus d'une nationalisation, on va dire à bas bruit, ou d'une nationalisation partielle, et je pense que là, on tombe dans autre chose, et par ailleurs, il y a quand même des inquiétudes sur la souveraineté française. Est-ce
qui
que, du coup, il
n'y
aurait pas,
oui.
qui va l'acheter? Est-ce qu'il n'y aurait pas des fonds étrangers qui pourraient l'acheter? Est-ce que ça ferait pas quand même en sorte, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème, par exemple, que les marchés actions européens et français sont à un niveau beaucoup plus bas, en fait, en moyenne, que les marchés américains. Ce qui rend nos entreprises
relativement attrayantes
pour des achats par des entreprises américaines, dont ils ont l'impression que c'est très très peu cher. Et donc, en fait, est-ce que en imposant davantage le capital, on va pas encourager encore plus cette vente de nos actifs à l'étranger? Je pense que c'est des questions ouvertes quand même.
Martin Baloge, très rapidement pour terminer cette émission, est-ce que cette distinction qui a été très fortement structuré, les débats aujourd'hui sur un capital qui dormirait notamment dans ces holdings, qui serait donc improductif et donc l'argument macroéconomique ne tiendrait plus, l'argument qui consiste à protéger les biens professionnels ne tiendrait plus. Est-ce que cela, c'est une nouveauté au regard de l'historien et sociologue et politiste que vous êtes?
Ben, c'est sûr que on en revient à la question, par exemple, de la réforme de 2018. La réforme de 2018, elle a été surprenante parce que dans les législatures précédentes, d'une part, on parlait plus des biens professionnels, c'était pas la question, ça avait été tranché, et même la droite, en fait, ne demandait pas un impôt tel que Emmanuel Macron l'a pensé en 2018 avec l'IFI. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, la situation actuelle, elle est assez surprenante et assez novatrice parce que la taxe Zuckerman, elle introduit un débat qui avait disparu de l'Assemblée nationale. Par contre, le débat, il arrive à un moment qui est le pire moment en fait actuellement. On n'a plus de gouvernement, on a une polarisation de la vie politique qui n'est pas très favorable à ce type de mesures extrêmement clivantes. On est censé revenir à une pratique plus parlementaire de la Ve République et on a du mal à imaginer dans le contexte actuel comment est-ce qu'en fait on pourrait trancher politiquement ce débat entre la taxation d'un capital productif et improductif.
Et François Gérolf m'a dit qu'il est d'accord, d'accord avec vous.
D'accord avec ça, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement à un moment où on monte un petit peu tous aux extrêmes, le fait de faire de la taxe Zuckerman une condition de non-censure par exemple d'un gouvernement, je pense que c'est très risqué.
Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette émission, François Gérolf et Martin Baloge.
France Culture.
Et les pouvoirs publics commencent à voir que ce sont les grandes entreprises qui doivent constituer les véritables fers de lance.
Entendez-vous l'écho?
Mais Concorde, s'il représente un merveilleux appareil, est aussi un échec commercial.
Nos entreprises utilisent à plein le crédit d'impôt recherche pour innover.
L'État fait son devoir. L'industrie doit faire le sien.
I want France to be a startup nation, but also a nation that thinks and moves like a startup.
De très nombreuses entreprises moyennes ne font que trop peu de recherche. Et je les en avertis,
leur situation risque de devenir délicate dans les années qui viennent.
Pourquoi est-ce que la Chine et l'Inde sont en train de nous passer devant d'un point de vue industriel ? C'est parce que, en matière de recherche, de R&D, etc., ils sont beaucoup plus forts que nous.
Aliatovin.
C'est un appel qui s'est étalé en une du journal L'Opinion le 24 septembre 2025 face à la taxe Zuckerman. Une petite quarantaine d'entrepreneurs de la tech ont, selon leurs mots, lancé un véritable appel à ne pas concrétiser cette taxe sur les ultra-riches, y compris sur la valeur de leur patrimoine productif. Avec ce rappel toujours utile, nous, entrepreneurs, avons choisi la France parce que nous croyons dans notre pays, son modèle social et son positionnement unique dans le monde. Et nous avons réussi car la France a su créer les conditions pour y parvenir. Trois questions dès lors me sont venues à l'esprit. Est-ce que la fiscalité joue un rôle si prépondérant que cela dans le choix de la France pour implanter son activité lorsqu'on est entrepreneur dans la tech ? Quelles sont ces fameuses conditions que la France a su créer ? Et surtout, depuis quand État et entrepreneurs, a fortiori de la tech, entretiennent-ils des relations ? Assez spontanément, les discours de campagne d'Emmanuel Macron que vous entendiez à l'instant autour du slogan « I want France to be a startup nation » de 2017 me sont venus en tête, ce qui correspond à une étape relativement récente de notre histoire. Laissant penser que finalement les entrepreneurs de la tech étaient soit trop peu nombreux avant cela, soit trop réticents à toute forme d'intervention étatique pour que l'on puisse envisager une véritable prise en compte de leurs besoins et donc de la mise en place d'une politique qui leur serait spécialement destinée. Mais en fouillant un peu, je suis tombée sur les travaux de Jean-Baptiste Devaux et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'en réalité de véritables politiques de soutien, de prise en compte par les pouvoirs publics des enjeux entrepreneuriaux dans la technologie ont fait bel et bien l'objet d'une attention particulière et ce, dès les années 70. Mais de quelle technologie parlait-on à l'époque et surtout, quelle évolution ont connu ces relations État-entreprise de la tech qui expliquerait que le concept de Startup Nation ait eu l'air si novateur à l'époque ? C'est une histoire de lutte au sein des administrations, d'influence de l'expertise économique, d'éternels questionnements autour de l'arbitrage entre État, recherche et marché, le tout saupoudré d'avancées technologiques plus ou moins révolutionnaires qui s'est alors ouverte devant moi et comme j'ai, je l'avoue, une passion pour les coulisses de la fabrication des politiques économiques et des acteurs qui les peuplent, surtout quand elles permettent de comprendre à ce point le monde tel qu'il va aujourd'hui. J'y ai plongé la tête la première et c'est la raison pour laquelle nous recevons aujourd'hui Jean-Baptiste Devaux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférence en sociologie à Grenoble INP, l'université de Grenoble, et chercheur au laboratoire PACT. Votre thèse, soutenue en octobre 2021, s'intitule « L'état technologique, rationalisation et institutionnalisation d'un territoire bureaucratique de point l'innovation 1963-2003 ». Jean-Baptiste Devaux, je le disais, vous êtes sociologue, mais votre approche est aussi finalement assez historique. Vous avez ce recul-là, puisque vous étudiez les politiques de l'État en matière technologique et d'innovation depuis la fin des années 60. Quel regard portez-vous sur cette levée de bouclier de la part des entrepreneurs dont je parlais à l'instant et cette défense des startups en tant qu'acteurs majeurs de l'économie ? Est-ce que c'est étonnant, si on regarde l'histoire sur le temps très long, est-ce que c'est finalement l'aboutissement aussi d'une forme de défiance qui pourrait caractériser peut-être les entrepreneurs de la tech et l'État un peu depuis le début?
Merci beaucoup pour l'invitation. Il y a effectivement historiquement une défiance des acteurs, des entrepreneurs et des acteurs de la tech vis-à-vis de l'État qui renvoie en fait à une forme un petit peu d'ignorance plutôt partagée, d'abord de tout ce que fait finalement l'État en fait pour les entreprises et de des conditions par lesquelles advient le développement technologique. L'innovation, le développement technologique renvoie souvent à la figure d'entrepreneur un peu géniaux, visionnaires.
Et assez isolés, finalement, des individus de génie.
Exactement, ces individus de génie qui ont vu un coup avant les autres et qui ont su anticiper les besoins des marchés, etc. Négligeant à la fois toutes les professions, tout le monde dont il y a besoin pour développer technologiquement des choses. Et puis négligeant, en fait, justement, la place de l'État, la place des pouvoirs publics dans le développement technologique en général, et notamment en France, en fait.
Donc, si on reprend depuis le début, parce qu'en fait, ce dont vous nous parlez, Jean-Baptiste Devaux, c'est finalement l'idée de la mise en place progressive et qui a suivi, on va dire, certaines évolutions d'une véritable politique de l'offre. Si on reprend depuis le tout début, c'est-à-dire le moment que tout le monde, peu ou prou, a en tête, à savoir le modus operandi de l'État vis-à-vis des entreprises dans l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est celui de la planification, c'est celui des grands projets. Est-ce que cette logique là a laissé la place finalement à ces acteurs de la tech? Alors on les appelait évidemment pas comme ça à l'époque, mais comment voilà ces acteurs là, ce secteur là a réussi à s'infiltrer aussi dans cette logique des très grands projets?
En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les années 50, la logique qui gouverne un petit peu à l'élaboration des politiques technologiques, elle est pas vraiment la même que, enfin, elle est vraiment pas la même en fait hein, que celle qui préside aujourd'hui. Et donc, il y a moins de place finalement dans les années 50 hein, pour ces acteurs de génie, pour ces visionnaires, etc. Ce que les pouvoirs publics se disent dans les années 50, dans une logique de planification, c'est que finalement, il faut que la France rattrape son retard, il faut que la France se développe industriellement, notamment technologiquement aussi. Et donc en fait, l'État fixe, enfin les hauts fonctionnaires qui sont à la tête de certains ministères fixent des caps, se fixent des technologies que la France doit acquérir, et ensuite met en place hein, toute une série d'acteurs pour que met en place toute une série de choses et mobilise des entreprises, mobilise des laboratoires de recherche pour que ces technologies adviennent quoi. Et donc en fait, les acteurs les individus, si on veut à ce moment-là, nous occupent très peu de place. Tout est porté véritablement par l'État et par les hauts fonctionnaires. À ce moment-là, dans le développement technologique. Quoi.
Et puis là, on parle déjà des entrepreneurs, mais peut-être que la première façon aussi de concrétiser ces liens, c'est la façon dont l'État s'est préoccupé de la recherche telle qu'elle se menait dans les laboratoires, dans les universités, dans les institutions dédiées. Et là, il faut dire que tout ne va pas de soi non plus. Vous parlez, je crois, d'une forme de libéralisme scientifique. Globalement, les scientifiques n'ont pas tellement envie qu'on leur dise que leur recherche pourrait être appliquée, qu'elle pourrait avoir une fonction, alors pas encore économique parce que ça viendra plus tard, mais il y a une forme de... Là encore, pas forcément de défiance, mais en tout cas, on préfère mener nos recherches comme on l'entend.
Ouais, tout à fait. Dans les années 50, il y a pas de ministère de la recherche, il y a pas de ministère de la science en France ou du développement scientifique. Les scientifiques sont très très frileux à l'idée que l'État pourrait intervenir dans ce qu'ils font. Hein. Ils essaient de garder une forme d'autonomie assez forte. À l'inverse, c'est vraiment les ingénieurs des grands corps de l'État qui eux cherchent à avoir une mainmise assez forte sur le développement scientifique. C'est ce qui explique pour grande partie en fait l'existence en France du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, contre le CNRS, hein, qui est le principal organisme de recherche en France. CEA qui est un petit peu à la main hein, finalement du corps des mines, alors que le CNRS reste, et puis les universités évidemment, reste l'espace d'autonomie de la science en France. Et donc, il y a cette résistance véritablement à une étatisation du développement technologique au début, ouais, complètement.
Et puis, dans les années 50, progressivement, les choses changent. Il y a une forme de prise de conscience aussi à la fin de ces années 50. L'action étatique va changer, on pourrait le dire, de philosophie aussi. On commence à faire des liens, finalement, entre investissement dans les activités scientifiques et croissance économique. Au nom de quoi l'État va-t-il décider d'accorder, par exemple, des crédits budgétaire ou non, est-ce que cette connaissance scientifique va reconfigurer finalement les liens entre recherche scientifique et action de l'État ?
Oui, tout à fait. En fait, dans les années, à la fin des années 50 et début des années 60, la science apparaît comme une source hein, de valeur économique potentielle, en tout cas une source d'enrichissement potentiel. Et en fait, surtout ce que se disent les gens à l'intérieur du ministère de la Recherche, mais aussi pas mal de gens qui ont fait l'ENA, qui sont inspecteurs des finances, c'est que finalement, c'est les entreprises qui sont les plus à même hein, de savoir ce qu'il faut faire pour développer la technologie, de savoir vers quoi orienter le développement technologique. Et donc, dans les années 60, il y a à la fois le souci de mieux accompagner les organismes de recherche publique, mais aussi d'investir, d'accompagner public, par des crédits publics, l'investissement en recherche dans les entreprises. Quoi.
On commence donc, en ce tout début des années 60, à s'intéresser aux entreprises, petites, moyennes, moins les grandes, puisque c'est ce que l'État fait déjà, et le fait déjà bien en tout cas à cette époque-là. C'est une vision que défend notamment Gaston Palevski, nommé ministre d'État en charge des questions scientifiques de la recherche atomique et spatiale en avril 1962, et qui s'exprimait en janvier 1965 au micro d'Interactualité.
Nous avions un grand retard à rattraper. Or, au cours de ces dernières années, nous avons vu que en chimie organique, en chimie biologique, en chimie minérale, en chimie physique, nous avons fait des progrès très importants. Mais il reste encore beaucoup à faire. L'État envisage d'accroître son effort, soit dans le cadre des budgets de recherche des organismes publics, soit par la poursuite d'actions concertées de recherche. À cet effort de l'État doit répondre un effort équivalent du secteur privé. L'industrie chimique occupe en France un rôle de premier plan. Elle emploie 230 000 personnes. Son chiffre d'affaires a été d'environ 21 milliards en 63. Mais seules les grandes firmes consacrent à la recherche des moyens suffisants, demeurent compétitives, ont une renommée internationale. De très nombreuses entreprises moyennes ne font que trop peu de recherche. Et je les en avertis, leur situation risque de devenir délicate dans les années qui viennent. Elles doivent s'organiser, se regrouper, au moins en ce qui concerne la recherche, de façon à atteindre la taille critique qui leur permettra de subsister dans un monde où la concurrence économique s'annonce sévère. L'État fait son devoir. L'industrie doit faire le sien.
Jean-Baptiste Devaux, on l'entend, cet extrait, il prend l'exemple de la chimie parce qu'il était à ce moment-là en visite dans cette usine-là, dans ce secteur-là. Mais en fait, il nous dit énormément de choses, cet extrait. On est là au milieu des années 60. Or, il y a vraiment ce tournant sur lequel je voudrais insister, de cette prise en compte de l'argument économique, de cette vision macroéconomique. Et c'est ce qu'on entendait aussi dans un contexte plus général qui va commencer à être compliqué. Il faut que les petites et moyennes entreprises s'arment. Ça fait partie du message. Et en fait, ce lien entre croissance, entre bienfaits économiques et investissement dans la recherche, c'est quelque chose d'assez novateur, Jean-Baptiste Devaux.
Oui, complètement. Les années 60, c'est un moment où progressivement le marché commun s'agrandit, où progressivement les barrières douanières se lèvent, et donc en fait où les produits s'internationalisent, se globalisent. Et y a une crainte qui est très forte des pouvoirs publics, finalement, de découvrir en fait un appareil productif un peu vieillissant et de découvrir des entreprises qui ne vont pas, qui risquent de ne pas résister à cette mondialisation. Si Gaston Pelevski cite l'exemple de la chimie, c'est pas pour rien, c'est parce que la chimie est finalement la grande perdante des 20 années précédentes. C'est un secteur qui n'a pas eu de grands programmes technologiques, comme l'aviation ou le nucléaire, par exemple. Et donc, la chimie a eu peu de moyens pour se développer, peu de moyens accordés par l'État. Et donc, Pelevski, à ce moment-là, décide de basculer un petit peu les choses en disant, on va arrêter les grands programmes et on va financer directement les projets qui émanent des entreprises. L'État ne va plus être un initiateur, mais une banque de projets. Hein, et finalement, l'État va financer les projets qui émanent des entreprises, parce que c'est les entreprises qui sont les plus à même de savoir ce qu'elles veulent et ce qu'elles doivent faire, quoi.
Vous dites les entreprises, mais finalement, c'est le marché.
C'est le marché, en fait, exactement. La grosse bascule des années 60, et en fait, on est encore dans ce moment, c'est pour ça que tout ce moment des années 60, il est vraiment important, c'est l'idée selon laquelle, en fait, c'est le marché qui est le juge de paix, hein, finalement, l'arbitre du choix des technologies, et ce ne doit pas être les hauts fonctionnaires dans leur bureau hein, qui choisissent si on va investir dans le réacteur nucléaire, ou dans le Concorde, ou dans un gros porteur aéronautique. C'est le marché qui choisira ça. L'État, lui, va arroser. Il va essayer de faire croître toute une série de projets qui lui sont portés par les entreprises. Et puis, à partir de là, libre aux consommateurs et libre aux entreprises, elles, de faire prospérer leurs projets, quoi.
Et c'est là qu'il faut aborder un point qui a l'air uniquement sémantique, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est là où on passe aussi d'une politique technologique, très centrée sur la recherche, etc., à une politique véritablement de l'innovation, parce que dans le mot innovation, il y a cette idée, pour non seulement d'invention, de coup de génie ou non, mais d'invention, mais aussi de commercialisation. Cet aspect-là, pourquoi il est soudainement pris en compte aussi par les pouvoirs publics, Jean-Baptiste Devaux ?
Mais c'est exactement ça. Le changement de mot, c'est pas simplement, effectivement, vous le dites bien, un changement sémantique, c'est vraiment un changement de paradigme. Il y a ce traumatisme du Concorde à ce moment-là, qui est un superbe outil technologique, un superbe avion, qui remplit des promesses techniques incroyables, mais qui finalement ne trouve aucun débouché commercial et qui traumatise d'une certaine manière l'administration publique à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est de ne plus financer la science et l'industrie au nom du développement technologique, mais bien au nom de l'innovation. L'innovation, c'est quoi ? C'est la rencontre entre un nouveau produit et un marché. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le développement technologique, qui lui est la poussée de connaissances techniques dans un certain domaine. Là, c'est la rencontre entre un produit et un marché, et donc finalement, c'est une question commerciale. Donc, on se déplace en fait progressivement. Le développement technologique jusqu'ici était une affaire effectivement de scientifiques, et devient en fait progressivement et prioritairement une affaire d'entreprise et progressivement d'entrepreneur.
Il ne faut pas investir pour investir, ni faire de la recherche sans avoir au moins l'idée d'un marché. Le péché mignon des Français, ce serait plutôt d'avoir des idées géniales, mais de ne pas savoir les mettre en œuvre au niveau industriel et surtout commercial. Ce n'est pas le tout d'avoir un bon produit, encore faut-il savoir le vendre. Et c'est un peu l'histoire du Concorde, qui est un avion tout à fait génial. J'ai eu l'occasion de monter dedans. Et
vous avez eu la chance, moi pas.
Je l'ai apprécié. Aller à New York en 3h30, c'est tout de même quelque chose d'extraordinaire. Cela dit, on a fabriqué seulement une vingtaine d'exemplaires de ce Concorde, à prix d'or, et faute de clients, on n'a pas pu en produire les quelques centaines qui étaient nécessaires pour rentabiliser l'opération.
Ne m'appelez plus,
jamais France. La France m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser mille ans. J'étais un géant, j'étais presque, presque aussi fort que l'océan. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des corps morts.
Un extrait de l'émission culte Rue des Entrepreneurs sur France Inter où l'on entendait l'économiste Jacques Mornan qui s'exprimait en 1985 dans une émission intitulée Les bides technologiques. La musique aussi est d'eux, c'est toute une époque, petit coup de déprime potentiellement pour l'Assemblée. Une émission qui faisait, on l'entendait, le bilan de la politique d'innovation française et c'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho en compagnie de Jean-Baptiste Devaux. On l'a dit, les années 60 sont des années de rupture, on prend conscience de toute l'implication du mot innovation aussi en termes commerciaux. Les années 70 aussi vont marquer un autre tournant. L'État va désormais chercher à susciter des comportements au sein du tissu productif plutôt que d'imposer une forme de planification qui, on le rappelle, ce qui prévalait dans les années d'après-guerre. C'est le passage donc définitif d'une politique technologique à une politique de l'innovation. Un passage incarné par la nomination en juin 1969 de François-Xavier Ortoli. Le 3 juillet 1969, il était de passage dans Interactualité.
Le ministère que je vais diriger regroupe industrie d'une part et recherche scientifique d'autre part. Ceci veut dire en réalité que nous devons réaliser un développement industriel fondé sur le progrès technique. C'est indispensable parce que si la France ne prend pas les dimensions d'une grande puissance industrielle, beaucoup de très graves problèmes se poseront à elle. Mon action, c'est d'abord une action d'animation. Je dirais d'abord faire comprendre qu'il est nécessaire que nous réalisions l'essor industriel du pays pour chacun des Français. D'autre part, mettre en place l'ensemble des moyens qui permettront de le faire. Et c'est d'abord la liaison très étroite que j'ai l'intention d'organiser avec tous les ministères qui exercent une responsabilité industrielle. C'est ensuite la volonté de développer un certain nombre d'actions, de mettre en place un certain nombre de moyens sur lesquels je réfléchis actuellement pour assurer ce développement industriel, qu'il s'agisse de la volonté de développer certains secteurs, qu'il s'agisse de faire une place éminente, que je crois pour ma part fondamentale, aux petites et moyennes entreprises dans le développement industriel du pays. Enfin, je souhaite intégrer très profondément problèmes d'industrie et problèmes de recherche, parce qu'il ne fait pas de doute que dans le monde dans lequel nous vivons, dans ce XXe siècle fulgurant dans lequel nous vivons, il est nécessaire de fonder sur le progrès technique, en même temps que sur un effort d'organisation, en même temps que sur un effort de gestion, la réussite industrielle.
La nomination de François-Xavier Ortoli en 1969 fait, et vous le dites Jean-Baptiste Devaux, une petite révolution de palais. Alors on n'aura pas le temps de rentrer peut-être dans les coulisses véritablement de ces administrations, mais il y a une grande réforme des structures du ministère. Il y a deux directions transversales qui sont créées, la direction des études et des programmes qui sont chargées des missions d'études et la direction de la technologie et de l'environnement industriel et des mines. C'est très important pour la suite de l'histoire puisque le 18 juin 1971 est acté une politique nationale d'aide à l'innovation, c'est-à-dire une politique davantage tournée vers le soutien aux investissements privés. Quelle en est la philosophie, Jean-Baptiste Devaux ?
Jusqu'ici, on se disait, l'action du ministère de l'Industrie, elle consistait essentiellement à soutenir des filières, soutenir des secteurs, donc le secteur de la chimie, le secteur des textiles, etc. L'arrivée d'Ortoli, et puis qui sera prolongée par ses successeurs, consiste à dire, en fait, l'action de l'État, elle doit pas consister à faire le mécano industriel et donc à bricoler des secteurs et les réparer. En fait, elle consiste plutôt à fournir un environnement global aux entreprises qui leur permet de se développer. Aux entreprises, mais surtout aux entrepreneurs. L'idée qui va grandir progressivement, c'est qu'en fait, même l'innovation ne vient pas nécessairement de la R&D, de la recherche, des scientifiques. L'innovation ne vient pas des grosses entreprises qui font de la recherche. En fait, l'innovation, ça peut venir de partout. Ça peut venir de la science, mais ça peut venir aussi et surtout peut-être du génie justement de ces visionnaires, de ces entrepreneurs, etc., qui savent bricoler, bidouiller, anticiper les marchés. Et finalement, ce qu'il faut, c'est leur donner des possibilités d'agir. Il faut leur permettre de se financer comme ils le souhaitent, aussi librement qu'ils le souhaitent, et développer leur activité comme ils le souhaitent. Donc, il faut libérer l'entreprise. On est à la fin des années 60, mais c'est déjà ça. Il faut libérer le financement de l'entreprise. Ça, c'est une des préoccupations centrales du ministre de l'Industrie à l'époque. Et il faut créer des marchés de financement. Et l'État doit participer à ça, c'est-à-dire sécuriser le risque, dérisquer en fait les investissements privés et permettre aux entrepreneurs finalement de créer, d'inventer, d'innover aussi librement qu'ils le souhaitent. En tout cas, c'est la philosophie, quoi. Donc on se centre sur la figure de l'entrepreneur dès la fin des années 60, très clairement.
D'où l'idée de l'expression d'un État schumpeterien aussi, Jean-Baptiste Devaux. Si on est un peu ironique, ou en tout cas si on prend un peu la tangente, on pourrait se dire que le contexte économique, politique peut aider aussi ce genre de politique. Les années 70, c'est quand même les années des crises pétrolières. Dans quelle mesure on peut voir finalement ce tournant schumpeterien comme, pas un pied aller, mais en tout cas une façon de trouver quelque chose à faire quand globalement l'économie ne se porte pas très bien?
Mais c'est tout à fait ça. Le slogan « pas de pétrole, mais des idées » là joue à plein, c'est-à-dire grosso modo, nous avons un pays qui est fait de plein de gens qui ont des petites entreprises, hein, etc. Et ces gens-là, il faut les transformer en entrepreneurs, c'est-à-dire non pas en petits gestionnaires de leur SARL, mais vraiment en gens capables de se jouer des marchés, capables d'exporter, capables de développer l'entreprise pour qu'elle soit compétitive. Et donc la politique industrielle va se transformer vraiment à ce moment-là en politique de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire il faut donner les clés aux entrepreneurs pour qu'ils comprennent le marché, qu'ils comprennent le monde du financement. Et l'État va accompagner ça, notamment en développant une agence de l'innovation dès la fin des années 70, qui préfigure en fait très largement ce qui est aujourd'hui BPI France.
C'est l'ANVAR, l'Agence nationale de la valorisation de la recherche, qui avait été créée en 67 et puis qui effectivement tombe sous la tutelle, enfin, est rattachée au ministère de l'Industrie en 78 et qui mène, là je reprends votre expression, un véritable travail d'évangélisation de ces petites entreprises, parce que l'affaire n'est pas mince. Ce sont des petites structures, petites et moyennes entreprises, considérées assez souvent comme archaïques. Bon, il y a quelques difficultés pour faire en sorte que ça prenne, Jean-Baptiste Devaux. D'ailleurs, cette agence, il faut le dire, est dirigée par Christian Marbach, qui est un personnage très important. J'invite vraiment les auditeurs, les auditrices à consulter vos travaux pour bien comprendre ce qu'il se passe. Les années 80-90 sont importantes parce que, justement, je parlais de Christian Marbach, lui, il défend une vision très financière de la chose. Il se dit, pour véritablement impulser ce changement-là, il faut la mise en place d'une industrie de la finance. Jean-Baptiste Devaux, on pourrait se dire que ces années 80-90 marquent l'avènement aussi d'une industrie de la finance. Est-ce que pour autant, on voit un boom de l'innovation et un boom des petites entreprises capables d'innover grâce à ces outils-là de la finance ?
Effectivement, Christian Marbach, c'est quelqu'un qui développe très tôt l'industrie du capital risque et qui cherche en tout cas à développer une industrie du capital risque en France. Et il prend la tête de cette agence à la fin des années 70. Mais finalement, ça ne prend pas et c'est très supporté par l'État. Durant toutes les années 80, le financement de l'innovation est très supporté par cette agence publique. L'industrie financière, en fait, va surtout croître. L'industrie financière destinée au financement de l'innovation va surtout croître à partir des années 90.
Fin des années
80-90, au moment où on se rend compte qu'il y a des entreprises qu'on appellera plus tard start-up, mais qu'on n'appelle pas encore start-up, qu'on appelle PME de croissance, qui utilisent énormément qui ont des besoins en financement importants, qui développent de nouveaux projets, qui sont tout entièrement tournés vers l'innovation et qui sont des promesses de rentabilité en fait pour cette industrie de la finance qui cherche à croître. Les années 80, c'est un moment de financiarisation discrète et puis tout explose vraiment à partir de la fin des années 80 et du début des années 90.
Mais ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, et puis ça reboucle aussi avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est que finalement il y a ce mouvement de la finance là qui, on a l'impression, est une forme de choc exogène qui pousse l'État un peu à se repositionner bon gré mal gré, mais que l'État ne dirige plus vraiment, enfin n'a plus vraiment de vision en tout cas en ce qui concerne l'innovation, mais suit, tente d'accompagner ce mouvement de financiarisation. Est-ce qu'on peut résumer les choses comme ça, Jean-Baptiste Dehaut ?
En fait, complètement. Moi, ce qui m'a fasciné quand j'ai travaillé, c'est de voir qu'à partir des années 80, en fait, l'État finance l'innovation, mais se désintéresse complètement du contenu des technologies qu'il finance. L'essentiel, c'est que les entrepreneurs, que les scientifiques, que finalement le corps social innove, le corps productif innove, et on se désintéresse grosso modo de ce qu'ils font concrètement, de ce vers quoi tendent leurs innovations, parce qu'on croit profondément au fait que l'innovation in fine amènera de la croissance, amènera de la valeur ajoutée, et donc in fine également amènera une forme de ruissellement dans l'économie, se convertira en emploi, etc. Donc l'essentiel, c'est que les entreprises innovent et que le tissu productif se renouvelle, se régénère, se transforme. Finalement, on n'hésite pas en fait c'est typique des années 80, à faire mourir certains secteurs industriels, certaines entreprises qui pourtant concentraient des milliers d'emplois industriels, en ayant la croyance, ou en tout cas en vivant avec cette promesse du fait que les entreprises innovantes pourront régénérer le tissu productif.
Jean-Baptiste Devaux, j'ai une hypothèse que je vais vous soumettre, il faudra y répondre très rapidement car cette émission est en train de se terminer. On a donc finalement des institutions gouvernementales, ou en tout cas qui émanent de l'État, qui finissent par perdre le fil un peu, qui se laissent porter par, on va dire, les grands mouvements de l'industrie financière. On a parlé de l'ANVAR qui cherche à évangéliser dans les régions. Aujourd'hui, on a la BPI qui, on l'a vu très récemment, a pris la parole pour défendre les entrepreneurs contre la taxe Duckman, entre autres. Est-ce que c'est pas une façon pour l'État de se relégitimiser aussi comme ça, de se dire en fait le représentant des startups, le représentant des entrepreneurs de la tech, maintenant c'est l'État, celui qui avait perdu un peu la main, se pose ainsi.
Mais je pense que c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. En fait, d'une certaine manière, le pouvoir des hauts fonctionnaires dans l'économie n'a jamais vraiment disparu, à ceci près qu'aujourd'hui, ils ne cherchent plus à faire les mécanos industriels, mais à s'ériger en véritable porte-parole de ce monde de la tech et des start-up qu'ils essayent d'encourager par tous les moyens et par des moyens financiers assez colossaux.
Merci infiniment, Jean-Baptiste Devaux. Et tout de suite, on retrouve le fil de l'écho d'Arnaud Aurin, qui lui aussi nous parle de la taxe Duckman.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Aliette Ovine.
Bonjour Arnaud, aujourd'hui vous soulignez à quel point les gouvernements sont fragiles face à l'impasse budgétaire et c'est une question qui est, on peut le dire, plus que jamais d'actualité.
Ça ne vous a pas échappé ? En France, les gouvernements tombent les uns après les autres à cause de l'impasse budgétaire. Et depuis quelques mois, un nom revient dans le débat public, celui de l'économiste Gabriel Zucman. Son idée est assez simple. Instaurer un impôt plancher de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Pas sur les revenus, mais bien sur les fortunes accumulées. La gauche applaudit, une large partie de l'opinion aussi. Au contraire, les économistes libéraux et le patronat dénoncent le risque d'exil fiscal et le découragement de l'investissement. Bref, un duel classique. Mais ce qui est frappant, c'est qu'avant même la Révolution, le débat sur l'égalité et la progressivité de l'impôt est vif. Je vous propose ainsi de revenir en 1759. La France est alors en guerre contre l'Angleterre. La guerre de 7 ans tourne mal, le Canada et d'autres colonies passent sous contrôle anglais. Et les finances de Louis XV sont au plus mal. Le roi fait alors appel à un ministre réformateur, Étienne de Silhouette. Avec son conseiller, l'économiste Forbonnet, il veut à la fois renflouer les caisses et changer la fiscalité. Leur plan, la subvention générale. L'idée est claire, faire contribuer les plus fortunés. Taxes sur les domestiques, les carrosses, les chevaux. Impôt progressif en fonction de la qualité sur le café, le cuir, les bijoux. Et surtout, une taxe de 0,2% sur le patrimoine, capitaux, terres, immeubles. Comme chez Zucman aujourd'hui, il s'agissait de frapper la fortune, pas le revenu. C'était la noblesse qui était visée. Noblesse qui, contrairement à ce que l'on croit souvent, payait quelques impôts. Forbonnet invoque la justice fiscale. Les riches doivent, je cite, suppléer à l'impuissance des autres classes pour financer l'État. Mais du côté des privilégiés, bien entendu, ça a été l'alali. Les parlements disaient que frapper les riches devait provoquer une interversion universelle de la société. Ils invoquaient contre Silhouette la baisse du prix des terres, de la consommation et de l'investissement. Les caricaturistes dessinaient alors des portraits, des culottes, des manteaux à la Silhouette, c'est-à-dire sans poche et sans gousset, puisque l'État avait tout pris, ce qui deviendra l'image d'une Silhouette. Le 21 novembre 1759, le ministre est poussé à la démission. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est le blocage de la société qui l'illustre. En taxant de plus en plus les privilégiés au cours du XVIIIe siècle, l'État monarchique s'est aliéné ses soutiens. Soutiens qui se sont sentis égalisés. Mais ce même État monarchique a fait peser la majorité du fardeau fiscal sur les classes productives. Bref, Personne n'était satisfait et l'impasse budgétaire était surtout une impasse politique. La société d'ordre commençait à craquer et l'égalité devant l'impôt faisait son chemin. De nos jours, l'égalité devant l'impôt semble être une promesse non tenue. Mais suffirait-il de taxer les ultra-riches pour réactiver l'idéal démocratique ? Au-delà de l'impôt, c'est leur capacité à s'extraire du contrôle démocratique qu'il conviendrait à mon sens d'interroger.
Merci beaucoup Arnaud, votre chronique est à retrouver en podcast sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture, deux endroits où vous pouvez aussi retrouver cette émission.